Vous êtes sur RTL.
Il est midi et demi.
RTL, le journal inattendu.
Ou vous êtes très très beau et on vous pardonne tout. Ou vous êtes pas très beau et là, vous êtes condamné à être sympa. Ou intelligent. Ou drôle. Mais vous pouvez pas vous contenter d'être vous, si vous voulez qu'on vous aime.
12h30, 13h30.
Hé hey, toi! C'est vrai, c'est toi le comique à la télévision?
Oui, bonjour.
C'est quoi ton nom?
Pierre Palmade.
Palma?
Deux.
Deux Palma? Palmade deux. Ah ouais, Palma.
Pierre Palmade est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Il me semble que je voulais vous dire autre chose. Ah oui, je suis alcoolique.
Bonjour Pierre Palmade.
Bonjour.
Et merci d'être pour une heure le rédacteur en chef de ce journal inattendu. Vous publiez « Dites à mon père que je suis célèbre ». Bah, c'est l'histoire de votre vie, l'histoire d'un petit garçon trop vite orphelin de père qui monte à Paris, comme on dit, qui va connaître très vite les sommets et les dérives de la nuit. Le récit d'un jeune provincial de 20 ans venu assouvir sa passion et qui s'est brûlé les ailes, écrivez-vous. Une histoire qu'une actualité récente a pu remettre en lumière, c'est vrai, même si aujourd'hui vous êtes engagé sur un autre chemin. C'est en tout cas l'histoire d'un homme qu'on aurait beaucoup de mal à ne pas aimer. C'est certain. L'histoire d'un homme qui nous a beaucoup fait rire et continue à le faire, comme à vouloir transmettre. Alors bien sûr, vous avez vous-même choisi les sujets. On va parler de ces démons, avec un reportage sur l'addiction, et puis avec votre invité, le professeur Didier Gel, addictologue lui aussi, mais spécialiste et engagé dans la lutte contre le sida. On parlera de cette maladie et des moyens de s'en protéger aujourd'hui. Mais on va aussi se détendre, hein, on va se marrer quand même.
Comptez sur moi déjà, pour essayer de détendre cette heure avec vous.
Ça sera facile avec votre talent d'auteur, d'interprète, avec quelques classiques inoubliables, en attendant les prochains peut-être. Il y aura des surprises, vous allez pouvoir commenter les infos si vous le souhaitez. Je voudrais juste vous citer page 11. Je voudrais que Pierre reste et que Palmade s'en aille. Alors Pierre, malgré ce livre qui est un grand autoportrait, il faut maintenant en une minute pour la radio, vous livrer à cet exercice.
Alors, à quelqu'un qui ne me connaîtrait pas, je lui dirais « Bonjour, je m'appelle Pierre Palmade, je suis né en 1968 à Bordeaux et à 20 ans, j'ai craqué, j'ai quitté mes études parce que je voulais faire artiste, je voulais jouer des sketchs sur scène, je voulais faire rire les gens sur scène. Il n'y a que ça qui me procure de la joie, c'est faire rire des gens. Je suis monté à Paris et tout de suite à 20 ans, je suis devenu célèbre avec mes premiers sketchs grâce à la télévision. À 20 ans, j'ai rencontré des gens qui étaient mes idoles. Des artistes célèbres qui m'ont aidé. L'argent est arrivé tout de suite, la célébrité. Et comme je me suis découvert homosexuel et que j'étais dans une époque très compliquée pour le vivre, les années 80 et 90, je me suis réfugié dans l'alcool et la drogue la nuit pour mieux le vivre. Et j'ai vécu deux vies en parallèle, une vie d'humoriste exigeant, et passionné, et puis une autre vie plus sombre la nuit qui a gâché ma vie privée puisque j'ai succombé aux addictions alcool, drogue, sexe. C'est une seule et même personne, ce Jekyll et ce Hyde. À 50 ans, ce garçon-là veut vivre en paix, veut se débarrasser de ses addictions et surtout continuer son métier qu'il adore, parce que écrire pour les autres et jouer sur scène et faire rire les gens, c'est ce qui me passionne le plus.
Eh bien, on va en parler de cette vie, de ce talent évidemment et du rire.
Est-ce que vous avez reconnu de qui je parlais?
Non, pas du tout. De Pierre.
Ça va?
Ouais, Pierre. Bon. Pierre Palmade est avec nous jusqu'à 13h30 sur RTL, dans le journal inattendu. On commence par l'actualité, vous pouvez réagir si vous le souhaitez. Une actualité dominée par le retour des deux otages français libérés au Burkina Faso. Ils sont actuellement à Ouagadougou, au palais présidentiel. Ils ont dit quelques mots, vous allez pouvoir les entendre. Et puis dans un instant, document RTL, les parents d'Alain Bertoncello, l'un des deux militaires tombés lors de cette opération. Je vous rappelle qu'un hommage national leur sera rendu mardi aux Invalides. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, souligne que la zone où ils avaient été enlevés est un secteur formellement déconseillé par le Quai d'Orsay et qu'ils avaient pris un risque majeur. 26e acte des Gilets jaunes aujourd'hui. Deux points de ralliement, Nantes et Lyon, où les centres-villes sont bouclés. On sera sur place à Lyon. Et puis le football, rien n'est joué en Ligue 1 pour l'Europe. En Ligue 2, Brest savoure sa montée. Le temps, Valérie Quintin, ça aussi, évidemment, c'est une info, parce qu'il y a de la pluie. Est-ce qu'on en a fini avec la pluie? Ça fait depuis hier que ça dure.
Alors à Paris, oui, on va avoir des averses, mais les seaux d'eau qu'on a pris cette nuit et ce matin, non, ça c'est terminé. Ces seaux d'eau-là sont partis précisément vers la Champagne-Ardenne. Et ça commence à gagner la Lorraine, l'Alsace sera concernée également. C'est vraiment dans le nord-est qu'il pleuvra le plus fort cet après-midi. Ailleurs, on va avoir encore un régime d'averses parfois orageuses avec localement du grésil, de la grêle. Ce sera le cas en Rhône-Alpes, en Auvergne, en Bourgogne également. Encore une fois sur la Champagne-Ardenne. Et puis à l'arrière, vers l'ouest, plus on va aller vers l'Atlantique, plus on a une chance de trouver des éclaircies vraiment pas vilaines. Pour les autres, on va un petit peu alterner. On trouvera du soleil aussi sur les bords de la Méditerranée. Il neigera en montagne à 1600 mètres et il va pas mal neiger en Savoie et Haute-Savoie. Quant aux températures, elles sont toujours en train de retard. Un 13 degrés attendu à Dunkerque, 15 à Rennes, 16 à Paris et Lille, 17 à Biarritz, 19 à Toulouse, 20 degrés à Lyon, 23 pour Marseille.
Merci Valérie. Vous confiez votre job à Pierre Palmade.
Exactement.
Hein, qui sera Monsieur Météo tout à l'heure à 13h.
Ah bon?
Bah oui, bah ne faites pas le surpris. D'ailleurs, vous avez une feuille à côté de vous.
Ah oui, c'est vrai, il faudrait que je dise la météo.
Oui, tout
c'est
à l'heure, à 13h.
Le journal inattendu sur RTL.
Un hommage de la nation sera donc rendu mardi matin dans la cour d'honneur des Invalides aux deux soldats d'élite, les deux commandos marines tués dans la nuit de jeudi à vendredi au Burkina Faso lors de cette opération menée pour libérer les deux otages français enlevés le 1er mai au Bénin. Opération qui a permis de libérer deux autres otages, une américaine et une sud-coréenne. Au cours de cette intervention, Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans, du commando Hubert, ont donc trouvé la mort. Les parents d'Alain Bertoncello, Jean-Luc et Daniel, ont accepté ce matin de réagir. Au micro de Serge Puyot, c'est un document RTL.
Alain, c'était un grand sourire et de l'humilité, et tout le monde l'aimait. Tout le monde l'aimait. On a beaucoup de témoignages et c'est vrai que ça nous soutient beaucoup.
Quand il était au lycée, il avait commencé par la préparation militaire. Il a eu une formation très complète, il a été sensibilisé, il connaissait les risques. Quand on est dans les commandos, on est préparé. On laisse pas place à l'improvisation et ni aux états d'âme. Il avait une mission, il a accompli sa mission.
Oui, je pense qu'il s'est pas posé la question et qu'il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Et il était très heureux dans ce qu'il faisait. Donc ça nous permet de nous soutenir un petit peu.
Il a eu un geste héroïque, votre fils?
Ben oui, oui. Il a vécu ce qu'il voulait et il nous a toujours dit de pas nous faire du souci. Et on s'en est pas fait. Jusqu'au moment où on a appris et on est fiers de ce qu'il a fait, malgré la douleur.
On regrette qu'il soit plus là. C'est tout.
Voilà, on est fiers de ce qu'il a fait, malgré la douleur. Document RTL, signé Serge Pueyo. Juste, je vous vois réagir forcément ému en entendant forcément ses...
Ses parents, ouais. Bah oui, parce qu'on ne pense qu'aux parents des militaires. Ouais. Et que ça doit être dur d'avoir un fils militaire, que ça doit être dur. Et mon sang, enfin voilà, faire un métier où on sait qu'on peut mourir, c'est heureusement qu'il y a des gens courageux comme ça, parce que je serais bien incapable d'aller défendre la France comme ça. Moi.
Mourir pour la liberté. La liberté des autres, la liberté de ces deux otages, donc français, Patrick Pic et Laurent Lassimouillas, qui sont arrivés un peu avant 9h au palais présidentiel de Ouagadougou. Et juste avant d'entrer, Laurent Lassimouillas a eu le temps de dire quelques mots au micro RTL de Sophie Douze.
Toutes nos pensées vont aux familles des soldats et aux soldats qui ont perdu la vie pour nous libérer de cet enfer. On voulait présenter nos condoléances tout de suite à ces familles, parce que nos pensées, elles sont ambivalentes par rapport à tout ce qui nous arrive. Une pensée aussi à notre chauffeur guide béninois qui a perdu la vie au tout début de notre enlèvement, et ça a été très difficile aussi. On voulait remercier les autorités françaises, celles du Burkina Faso, d'avoir participé à notre libération et à ce que nous soyons loin de tout cet enfer que nous avons vécu. Merci.
Voilà, l'un des deux otages français, donc au micro RTL de Sophie Douce, envoyé spécial à Ouagadougou. Ils étaient accompagnés de l'otage sud-coréen, hein, mais l'américaine n'est pas avec eux. Alors Pierre-Julien, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a lancé ce matin un appel à la plus grande prudence pour tous les touristes qui seraient tentés, comme Patrick Pic et Laurent Lassimouillas, de partir dans cette région.
Ouais, et puis il faut dire que Jean-Yves Le Drian n'oublie pas qu'il a été ministre de la Défense et qu'il a souvent rendu visite aux forces spéciales françaises engagées en Afghanistan, au Sahel, au Levant. Alors c'est vrai que le Quai d'Orsay, depuis un certain temps, déconseillait formellement aux voyageurs de s'aventurer au nord du Bénin en raison des risques d'enlèvement. Le parc de la Penjari est pourtant un endroit magique, un sanctuaire où il est très tentant de faire un safari au milieu des lions, des éléphants, de voir des hippopotames dans leur milieu naturel. Mais voilà, ce parc s'étend jusqu'au Niger et au Burkina Faso, un coin du Sahel où opèrent les groupes djihadistes qu'ils soient affiliés à Al-Qaïda ou à Daesh, plus des bandes armées qui profitent de la porosité des frontières pour gagner le Mali, par exemple, malgré les soldats de l'opération Barkhane. Voilà pourquoi Jean-Yves Le Drian a mis à nouveau en garde ce matin les Français, les touristes qui seraient attirés par cette zone à risque majeur, une zone même dite rouge, où il ne faut pas aller. On a eu hélas la preuve concrète de cette imprudence qui s'est soldée par la mort d'un guide et des deux commandos marines.
Merci Pierre-Julien. Les deux otages français devraient donc être de retour vers 18h. Ils sont attendus, ainsi que l'otage sud-coréen, à l'aéroport de Villacoublay, où ils seront accueillis par Emmanuel Macron. On marque une courte pause dans ce journal inattendu de Pierre Palmade. On va parler des gilets jaunes dans un instant et puis ensuite, surtout, on va parler de vous.
D'accord, moi je suis toujours partant pour ça.
Tout de suite.
Pierre Palmade est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Un jour,
Nivea.fr. Le journal inattendu de Pierre Palmade.
Avec Vincent Parisot sur RTL.
Après bientôt 6 mois de mobilisation, les Gilets jaunes appellent à manifester. 26e acte ce samedi, 2 points de ralliement où les autorités craignent d'ailleurs la présence de casseurs. Il s'agit de Lyon et de Nantes. Les préfectures du Rhône et de Loire-Atlantique ont d'ailleurs pris des arrêtés d'interdiction de manifester dans leur centre-ville. Vous êtes à Lyon pour RTL, Gauthier Delon-Bugard.
Effectivement, et à 2h du départ de la manifestation, ce sont surtout des policiers et des gendarmes que l'on voit ici sur la place Bellecour. Quelques dizaines de gilets jaunes commencent à affluer. Dispositif exceptionnel mis en place par la préfecture avec des centaines d'hommes, policiers à moto, de nombreux camions postés dans les rues et des hommes à pied pour encadrer le cortège. Toutes les sorties de métro sont surveillées, des sacs fouillés afin d'éviter tout débordement. Ce n'est plus une zone, mais 4 qui sont interdites à la manifestation dans le centre-ville. Une partie de la Presqu'île, le Vieux-Lyon, les gares Pardieu-Perrache. Dans ces périmètres, la circulation n'est pas coupée, mais il y a des contrôles et des fouilles de sacs. Toute personne qui ne respecte pas cette interdiction risque une amende de 135 €. Le cortège devra s'élancer d'ici 2h, vers 14h30. Il devrait frôler ce périmètre puisqu'il s'agit d'une boucle avec un départ et une arrivée place Bellecour. L'une des figures du mouvement, Jérôme Rodriguez, est d'ailleurs attendu pour participer à la mobilisation lyonnaise. Lyon, capitale des Gilets jaunes ce week-end, avec plusieurs événements. Un barbecue géant est notamment prévu après la manifestation.
Gauthier Delon-Bugard, mobilisation prévue également à Lille, Dijon, Toulouse ou Strasbourg. Les Gilets jaunes d'Alsace appellent d'ailleurs à un rassemblement devant le palais des congrès de la ville, là où Nathalie Loiseau, la tête de liste de la majorité, doit tenir un meeting en fin d'après-midi pour les européennes, en compagnie du Premier ministre Édouard Philippe. Une information qui vient de nous parvenir, on apprend que le médecin traitant de Vincent Lambert a annoncé à la famille l'interruption des traitements de ce jeune homme tétraplégique qui est en état végétatif depuis 10 ans. Son cas est devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France, vous le savez. Et le 24 avril dernier, le Conseil d'État avait validé la décision médicale d'interrompre les traitements de Vincent Lambert. Et cela malgré l'opposition de ses parents qui
veulent le voir encore
qui voulaient, voilà, qui voulaient les poursuivre. Là, la décision est tombée. Les traitements sont interrompus. Je vois que ça vous fait réagir, Pierre.
Bah, je fais une identification. J'aimerais que mes proches aient le droit de me laisser mourir si jamais je pouvais. Oui. Si j'étais dans cet état-là, j'aimerais bien. Qu'est-ce que c'est compliqué de savoir comment si on a le droit ou non de. Mon Dieu, que c'est complexe. Il faudrait un conseil qui puisse décider, oui ou non. Ça avance la loi ?
La loi n'a pas bougé, hein, mais la loi, elle permet effectivement ces décisions et les recours et faire des cas par cas. C'est ce qui a été fait. Ça fait 10 ans que ça dure. Donc voilà, le médecin traitant Vincent Lambert annonce que le traitement va s'arrêter dans quelques jours. Encore une info, l'Assemblée nationale a adopté hier en première lecture le projet de loi sur la restauration de Notre-Dame. Ça aussi, j'imagine que ça avait fait un grand choc.
Il y a beaucoup de gens qui se sont émus pour Notre-Dame. Je ne suis pas celui qui a été le plus ému. Je suis ému pour des choses plus... quand ça concerne plus les humains que les bâtiments.
Non. Donc le foot, par exemple, si je vous parle du football, ça ne va pas particulièrement vous émouvoir, le foot.
Écoutez, le foot, j'y arrive pas. Vois bien que c'est un sport qui plaît beaucoup, mais l'athlétisme, je préfère.
Tiens, vous disiez ça.
Ils sont pleins sur un terrain. D'après ce que j'ai compris, ils sont focalisés sur un ballon blanc moucheté qui doit faire valdinguer d'un bout à l'autre du terrain.
Et ouais, c'est ce qu'ils ont fait hier soir en Ligue 1 et Saint-Etienne a perdu à domicile 1-0 face à Montpellier. Cet après-midi, 17h, le PSG se déplace à Angers. Les autres matchs à vivre dans le multiplex RTL. L'équipe en Ligue 2, c'est la fête à Brest qui a battu Niort 3-0 et qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Sachez enfin qu'en rugby, Clermont s'est imposé en finale du Challenge européen face à Newcastle. Dites à mon père que je suis célèbre.
On est d'accord, je ne suis pas Notre-Dameophobe.
Hein. Non, j'en ai bien compris.
Parce que je fais attention
Non. Et puis on a le droit, effectivement, quand même, de pas forcément être très très ému par rapport à ça. En tout cas, vous avez le droit de le dire. Bon. D'ailleurs, vous dites beaucoup de choses dans le livre. Dites à mon père.
Oh, 2-3 confessions, comme ça, en passant.
Livre publié chez Harper Collins, sorti avec une publicité dont vous seriez bien passé, j'imagine. Celle de ce fait divers qui vous a valu de la garde à vue. J'ai envie de dire histoire de solitude, d'homme de passage, drogue, d'alcool, et une affaire qui se termine mal. On appelle ça une rechute.
Quand quelqu'un est en rétablissement et fait en sorte de ne plus toucher à l'alcool et à la drogue et se fait surveiller par des médecins et que malheureusement une période qui va mal et tout d'un coup il craque, il se redrogue et il reprend de l'alcool, c'est une rechute. Ça fait malheureusement partie du rétablissement et puis une rechute, on se relève et on continue à faire attention. Voilà. Et puis là, c'était un mauvais sort, une mauvaise rencontre. Non, ça s'est bien terminé parce que le garçon avait dit n'importe quoi sur moi et ça s'est très vite su. Mais c'est pour dire que on est fragile toute sa vie quand on veut chercher à se débarrasser de l'addiction. On ne dit pas ça y est, c'est fini, je suis guéri. Non, on doit être en hypervigilance toute sa vie.
Alors évidemment, c'est un éclairage supplémentaire de ce que vous vivez, de la force qu'il faut pour tracer une autre route. Alors il y a ce livre, bien sûr, mais Pierre, j'ai envie de dire, vous êtes vous-même un livre ouvert depuis des années. Il y a 4 ans, dans le journal Inattendu, vous m'aviez expliqué que vous étiez hétéro du crâne au nombril et homo en dessous. Non mais c'est vrai,
c'est une image très naïve que j'avais de moi quand j'étais jeune. Parce que d'abord, on confond la... comment dire, la virilité avec l'hétérosexualité. Les gens vous disent « Oui, mais tu ne fais pas homo ». Alors quand on vous dit « Tu ne fais pas homo », on croit qu'on ne l'est pas. C'est ce que j'ai cru. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y en a pas du tout dans le football. Puisqu'ils ne font pas homo, c'est donc qu'ils ne le sont pas.
Oui, c'est ça.
Ça me tarde quand même qu'il y en ait un qui ait le courage de le dire.
Ça s'est fait à l'étranger, mais en France, jusqu'à présent, jamais.
Ouais. Ça aiderait bien quand même à la tolérance. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je viens des années... Vous savez, l'homosexualité a été dépénalisée en 1981. Je suis né en 1968. Donc voilà, moi j'ai vécu avec le fait... J'ai été élevé avec le fait que c'était un délit, une honte. Je suis arrivé à Paris avec ça. Et donc, ça a été très long. Enfin, depuis quelques années, je suis en paix avec ça, et voilà.
Parce que vous êtes transparent, et cette entreprise de transparence, tiens, elle ne date pas d'aujourd'hui, vous venez de l'expliquer. Dans votre dernier spectacle, Aimez Moi, vous disiez déjà beaucoup sur vous-même. Ou alors dans cette pièce, Le Comique. Tiens, dans cette pièce, Le Comique, vous donnez un rendez-vous à un homme trouvé sur un site de rencontre.
Oui, moi, dans la lune, c'est pas juste le côté rêveur que j'évoquais dans mon pseudo.
Bon, ça, j'avais compris, je vois Jean. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote.
Bon, attends, c'est quoi le problème? Si tu veux te faire des amis, t'as MySpace ou Facebook, mais va pas sur Guédard.
Et vous? Vous n'avez pas peur qu'on vous reconnaisse en mettant votre photo sur ce site, monsieur Mazar?
Ben non, au contraire, si ça peut aider. Peur de quoi? D'avoir que je suis homo, que j'ai envie de tirer un coup?
Pas beaucoup d'artistes qui osent faire ça.
Justement, on pense que j'ai du courage, ça me fait une qualité de plus, ça plaît.
Oui, on pense que vous avez du courage. Oui, bien sûr, c'est du courage ce que vous faites aujourd'hui. Il faut du courage.
Je le vis pas comme du courage. J'entends que c'est du courage, mais je suis à l'aise que dans une certaine transparence, ouais. Parce que j'ai pas envie qu'on me dénonce. Je préfère me dénoncer que...
C'est ça. Vous écrivez. En fait, je veux choisir le mal qu'on dit de moi.
Ben oui, je suis un grand paranoïaque, certainement d'ailleurs accentué par tout ce que j'ai pris comme saloperie dans ma vie. Mais voilà, je préfère donner... Et puis, c'est pour tester la gentillesse des gens. Je me dis, allez, je vais donner toutes les armes contre moi et je verrai bien si on me tire dessus.
Se démasquer avant que les autres ne le fassent trop brutalement. Tiens, on écoute ça.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche des amoureux.
Voilà, c'est un de vos choix musicaux, Zaz, sous le ciel de Paris. Paris qui vous a aimanté, qui vous a attiré. Paris qu'il faut peut-être un peu quitter, non? En tout cas, lui faire maintenant quelques infidélités pour se remettre sur pied.
J'adorais Paris. Parce que c'est la seule ville où on peut faire du théâtre toute l'année. Ouais. Et j'adorais Paris parce que c'est là où il y avait les plus grandes boîtes homo, les plus beaux garçons la nuit. Et j'ai aimé Paris, entre 20 et 40 ans, j'ai aimé Paris pour ces deux raisons. Ouais. Maintenant, je n'aime plus les boîtes de la nuit. Je n'aime plus la vie la nuit, l'alcool, la drogue, même s'il y a eu des rechutes et que c'est très dur.
Et on prend un peu de recul par rapport à Paris, vous...
On habite à la campagne.
Ah ben voilà.
On habite à la campagne et puis surtout, mon addiction au showbiz et à l'excitation d'être célèbre à tout prix s'estompe.
Ben, on va y revenir évidemment ça tout à l'heure. J'ai lu quelque chose d'incroyable, hein, que vous refusiez à un moment de partir à l'étranger parce que là-bas, on ne se retournait pas derrière vous. On va en parler évidemment. On marque une pause, à tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Pierre Palmade, avec Vincent Parisot sur RTL. Dans son...
Et en plus, c'est bon!
Le journal inattendu de Pierre Palmade, avec Vincent Parisot sur RTL.
Et il me semble que je voulais vous dire autre chose... Ah oui, je suis alcoolique. Je préfère prévenir, je suis adorable, sauf quand je bois. Quand je vois, je suis comme tout le monde, je ne me maîtrise plus. Voilà, bonne soirée.
Voilà, bonne soirée.
Ça, c'est un de mes derniers sketchs où je viens d'emménager. Je vais prévenir mes voisins que je suis très dangereux quand je bois. Mais avec le grand sourire.
Mais là aussi, vous étiez à livre ouvert donc dans ce spectacle, Aimez-moi. Un mot quand même de ces addictions, et on va écouter le reportage tout de suite. Addiction à l'alcool combinée à l'addiction à la cocaïne.
Oui, qui entraîne en plus une addiction au sexe. Ouais. C'est surtout qu'on n'est pas prévenu que ça va être une addiction. On pense que c'est un plaisir. Les gens disent « Oh, je suis un fêtard. Oh, je suis un épicurien. » Non, 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 non. On est un alcoolique, un toxicomane et un accro au sexe. Et ça devient un poison petit à petit. C'est une maladie progressive. Et voilà. Et la coke, c'est la plus sournoise parce qu'on croit qu'on peut arrêter quand on veut et c'est faux.
Eh ben tiens, justement, vous avez demandé un reportage sur cette addiction. Donc on vous demande pas pourquoi. C'est un reportage signé Anne Le Hénaff.
Guy a une courte barbe blanche, des cheveux un peu fous, 58 ans et derrière lui, un long et ancien passé d'addiction.
Pour moi, en tout cas, l'année de cocaïne a été pire que les 10 ans d'héroïne. Parce que ça m'a rendu un petit peu dingue. J'ai commencé à un niveau de consommation de plusieurs grammes par jour. Pour me le payer, j'étais obligé de dealer. Ça m'a mis sur la paille. J'ai été viré de mon boulot. J'ai perdu tous mes amis, toutes mes dents. Non, ça a été dur.
30 ans plus tard, il se souvient encore parfaitement des effets de la cocaïne.
Ça provoque une espèce de montée, comme un high, qui est un peu speed, où on se sent tout à coup en toute puissance, joyeux, dominant. Moi, j'ai cru que ça me permettait de m'accepter et de m'aimer, alors qu'il y avait d'autres choses que je n'aimais pas. Ça me permettait de réussir. Ça me permettait de draguer, moi qui n'osais pas draguer. Ça me permettait de dépasser la colère ou les problèmes relationnel avec les gens, parce que finalement j'y étais insensible, vous voyez, j'étais quand même très anesthésié, c'était pratique. Et alors ce qui est très particulier avec la cocaïne, contrairement aux autres drogues, c'est que ce high ne dure que quelques minutes. Et ensuite, on passe son temps à essayer de retrouver ce high qu'on ne retrouve jamais. Pour s'en sortir, il faut vraiment en avoir marre d'en avoir marre, il faut quand même un peu toucher le fond, sinon on pense toujours qu'on va arriver à composer et contrôler. Et je m'en suis sorti grâce à des groupes de parole qui s'appellent Narcotiques Anonymes, et il y a une vraie entraide, c'est une vraie chaîne de solidarité, on va dire.
Il n'existe pas de traitement de substitution à la cocaïne. À l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, le docteur Laurent Carilla a mis en place un programme d'un an qui allie psychothérapie, thérapie de fond et soins physiques afin d'aider les patients à décrocher de cette drogue qui désorganise peu à peu le fonctionnement de quatre systèmes cérébraux.
Il y a un circuit qui s'appelle le circuit de la récompense, il y a un autre circuit qui s'appelle le circuit de la mémoire et de l'apprentissage, il y a un autre circuit qui s'appelle la motivation, un autre circuit qui s'appelle le contrôle. La cocaïne va emprunter ces circuits-là et au fur et à mesure des consommations va déstructurer les circuits. Ils vont plus fonctionner les quatre ensemble, il va y avoir d'un côté récompense et mémoire, tout seul motivation et tout seul contrôle. Ce qui veut dire quoi ? C'est-à-dire quand on va prendre de la coke, on va toujours rechercher cette récompense, on se rappelle que c'était bien, mais on n'a plus de motivation à bouger les choses, et surtout on n'a plus de contrôle. Et donc on rentre tout doucement dans un phénomène d'addiction. Tous les cocaïnomanes le diront, hein, à un moment, ils ont plus cette euphorie, enfin ils courent après, quoi, ils souffrent. Donc quand on souffre, on se fait soigner.
Ce psychiatre addictologue a un message pour vous.
Pierre Palmade, c'est bien de véhiculer ce message. Je crois que c'est vraiment important que les personnages publics se mettent en avant. Il faut aller même, je pense, témoigner lors de conférences. C'est bien aussi de le faire. Et bon courage pour votre rédemption.
Voilà. Très beau reportage de Dan Lenaf et message.
Très précis. C'est bien le monsieur qui racontait les effets. Et le fait qu'on n'arrive plus à retrouver ces effets après, c'était un très joli reportage.
Et qu'on court après tout le temps.
Oui.
Et vous avez entendu le message de l'addictologue.
Oui, je témoigne de ma vie, mais j'ai pas envie de devenir monsieur
porte-parole
et monsieur coke parce que j'ai un métier à faire et je veux exister parce que je suis drôle. Mais c'est un témoignage de vie, s'il peut faire écho à certaines souffrances et à certaines réparations, bah tant mieux.
Il est 13h, ce qu'on va faire, un tout petit peu de pub, on doit
encore
le faire, ben, c'est comme ça. Les infos, on rappelle les infos, je vous signale que vous avez une météo sur le feu, Pierre Palmade.
Alors, et puis je vous en ai préparé une très sympathique.
Et ensuite, on vous retrouve pour ce journal inattendu.
Le journal inattendu sur RTL.
Il est 13h01.
Journal inattendu de Pierre Palmade.
13h, les titres de l'actualité. Vincent Parisot.
Et à la une, cette information qui a été rendue publique il y a moins d'une demi-heure. Le médecin de Vincent Lambert va interrompre les soins de son patient d'ici une dizaine de jours. C'est ce qu'il a annoncé ce matin à la famille de cet homme tétraplégique dans un état végétatif depuis maintenant 10 ans. Son cas est devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France. Les parents de Vincent Lambert ont toujours voulu maintenir leur fils en vie, coûte que coûte. Jérôme Triomphe est leur avocat. Il vient de réagir, il se dit scandalisé.
C'est une décision scandaleuse, gravissime, et nous n'allons pas laisser faire. Aujourd'hui, nous allons engager un certain nombre de procédures pour empêcher le docteur Sanchez à la fois de violer le droit au recours effectif et de violer les engagements internationaux de la France. C'est quelque chose d'absolument gravissime, c'est la parole de la France qui est en jeu, et c'est évidemment la vie d'une personne handicapée, parce que Vincent risque d'être euthanasié au seul motif qu'il est handicapé. Donc c'est quelque chose de gravissime, nous n'allons pas laisser faire, que le docteur Sanchez sache bien que nous allons engager un certain nombre de recours pour que soit respecté le droit international dans cette affaire. C'est un message catastrophique qui est envoyé à la fois aux Français et à la communauté internationale. C'est quelque chose d'hallucinant. Eh bien, nous sommes dans le combat judiciaire et nous avons demandé à la justice d'obliger la France à respecter ses engagements internationaux.
Voilà, Jérôme Triomphe, l'avocat des parents de Vincent Lambert avec Vincent Serrano. L'actualité, c'est aussi le retour des deux otages français libérés au Burkina Faso. Ils sont actuellement au palais présidentiel de Ouagadougou. Ils seront en fin d'après-midi à Villacoublay. Toutes nos pensées vont aux familles des soldats et et aux soldats qui ont perdu la vie, vient de dire l'un d'eux en remerciant les autorités françaises et celles du Burkina. Vous avez pu entendre à 12h30 un document RTL, les parents d'Alain Bertoncello, l'un des deux militaires tombés lors de cette opération. Il avait une mission, il l'a accomplie. On est fiers de ce qu'il a fait, malgré la douleur, ont-ils dit, très émus. Un hommage national leur sera rendu mardi aux Invalides. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, souligne que la zone où les deux Français avaient été enlevés le 1er mai est un secteur formellement déconseillé par le Quai d'Orsay. Le 26e acte des Gilets jaunes aujourd'hui, deux points de ralliement, Nantes et Lyon, où les centres-villes sont bouclés. Le football, Saint-Etienne a perdu hier 1-0 face à Montpellier.
Oh non.
Ben si, c'est comme ça. Dur pour les Verts qui ne seront peut-être pas en Ligue des Champions. On verra cela, notamment après le match Marseille-Lyon de dimanche soir. Cet après-midi, le PSG se déplace à Angers et les matchs du soir sont à vivre dans le multiplex RTL, l'équipe de 19h30 à 23h. Je sais que vous serez à l'écoute. Pierre Palmade, et bien tiens, justement, Pierre, la météo, c'est à vous de jouer.
Alors cette météo aurait pu être la mienne il y a quelques années en fait.
Ah bon, pourquoi ?
Temps très instable partout en France avec des grains orageux, des grains. Oui. Fréquent dans le nord et dans l'est, où il neigera en moyenne montagne. Le soleil reviendra en revanche, ça c'est ma météo d'aujourd'hui moi. Ouais. Le soleil reviendra en revanche près de la Méditerranée et le long de la façade atlantique. Les températures iront de 12 à 23 degrés, de Langres à Marseille. Il fera 15 degrés à Beauvais, 16 à Paris et 20 degrés à Lyon.
Voilà, l'instabilité, c'est du passé.
Place... Et donc, il n'y aura pas de température dans les autres villes.
Non, on a les températures que là-bas. Ailleurs, il ne fait rien.
Il ne fait rien.
Non, voilà, c'est ça, exactement. Pierre Palmade est le rédacteur en chef du journal Inattendu.
Le journal Inattendu de Pierre Palmade, avec Vincent Parisot sur RTL.
Je propose un programme ni de droite, ni de gauche, ni du centre, je précise. Je propose un programme va-et-vient, tourbillonnant, basé sur l'honnêteté et donc l'indécision. En fait, dans mon programme, à certaines questions sur beaucoup de problèmes, je réponds, je sais pas. On verra. On verra quand je serai président.
Voilà, extrait de votre one-man show, j'ai jamais été aussi vu en 2010. Mais alors, vous n'êtes pas seulement humoriste, etc. Vous êtes devin, parce que vous aviez vu venir Macron, là.
L'histoire de ce sketch, il a une seconde vie, ce sketch, parce qu'il a été écrit il y a 7 ans, avant même qu'on connaisse Emmanuel Macron. Et c'était de la science-fiction. À l'époque, c'est pour ça que ça faisait rire, parce qu'il était absurde, ce mec qui est ni de droite ni de gauche. Et tout d'un coup, quand Emmanuel Macron est arrivé, ça lui a ressemblé. Et il y en a qui ne savaient pas si c'était une charge contre lui ou pour lui. Ouais. C'était ni l'un ni l'autre. Je suis effectivement devin. Je pense. Ouais, bah, je vois l'avenir.
Eh bien tiens, on va parler de votre carrière, c'est le passé et peut-être c'est l'avenir, parce que si vous voyez l'avenir, vous pouvez me dire ce que vous allez faire d'ici quelques années.
En tout cas, ce livre est une page qui tourne et une étape dans ma vie qui va être différente, je pense, que celle d'avant.
Vous dites, je veux vivre désormais paisiblement et pour y parvenir, je suis prêt à être un peu moins célèbre. Vous ajoutez, jamais, absolument jamais, je n'aurais imaginé écrire une telle phrase, à savoir, je suis prêt à être un peu moins célèbre. C'est vrai que vous avez été, avant toutes vos addictions, accro à la notoriété.
Ah oui, j'ai trouvé ça incroyable de se faire reconnaître dans la rue. Ça a été, il y avait mon métier d'humoriste, mais mon métier de mec célèbre dans la rue, c'était grisant, c'était incroyable. C'est comme si j'étais devenu une jolie fille. Ou un joli garçon. et je ne pouvais pas.
À tel point qu'à un moment, vous refusez d'aller à l'étranger parce qu'on ne va pas se retourner sur vous là-bas.
Oui, c'est pour vous dire à quel point c'était un traumatisme. Ouais. Si j'allais dans un pays, forcément, on ne me reconnaissait pas. Il y en avait plein.
Ah bah
j'ai l'impression de ne pas exister. Mais un jour, j'étais rentré de boîte de nuit avec un garçon qui ne me connaissait pas. Et j'étais en panique. Je me dis, mais comment il peut avoir envie de moi s'il ne me reconnaît pas? Et je lui ai montré tous mes passages chez Drucker et Foucault, ah oui, et Sabatier. avant qu'on aille dans la chambre pour être sûr qu'il savait qu'il couchait avec quelqu'un de célèbre.
Mais c'était pas plus intéressant qu'il s'intéresse à vous sans savoir qui vous étiez?
Mais oui, mais je ne m'aimais pas assez. J'aimais le Palmade célèbre, mais j'aimais pas Pierre. Ouais. Je me trouvais pas assez intéressant, pas assez beau, pas assez.
Parce que l'angoisse des stars, c'est qu'on les aime parce qu'elles sont stars et pas parce qu'elles sont.
Et bah c'était avant, moi je disais l'inverse. Ouais. J'ai dit j'espère que tu m'aimes parce que je suis célèbre, parce que je me donne assez de mal pour être célèbre, donc j'espère que c'est pour ça. J'étais un petit peu dans mes paradoxes.
Ouais. Vous avez beaucoup parlé de vos idoles, hein, pour lesquelles ou avec qui vous avez travaillé.
Je leur dois tout.
Sylvie Joly, Jacqueline Maillan. Bien sûr, on va parler plus tard de Muriel Robin et depuis de votre épouse, Michèle Larocque. Enfin, même si vous avez divorcé, revenu, enfin, Michèle Larocque. Voilà.
Une fausse épouse et une vraie.
Oui, bah, et la vraie, on en parlera aussi. Mais je voudrais vous parler d'elle. Écoutez-la.
J'avais pensé à un joli camaïeu de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces temps-là, ça changera.
Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors, vous ne risquez pas de vous tromper.
Puis, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein.
Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravie, Thérèse.
C'est vrai?
On connaît la réplique par cœur. Anémone, qui nous a quittés il y a quelques jours. Vous écrivez dans le livre sur Anémone. J'ai une fascination pour Anémone. J'ai le fantasme de la faire revenir sur scène après ses adieux.
Et oui, là, ça va être compliqué, mais j'aurais tellement voulu. Elle avait envie de rejouer la pièce que j'avais écrite pour Jacqueline Maillan, je sais. Ah ouais. On en parlait, j'ai eu la chance de la rencontrer. Un génie comique. Et moi, une femme drôle, c'est tellement plus... J'admire les femmes drôles 10 fois plus que les hommes drôles.
Ouais. Elle pouvait être sans filtre, hein. Anémone.
Ah oui.
Elle était souvent sans filtre.
Elle était très... Elle pouvait même être embarrassante. Ouais. Dans ses interviews ou même dans la vie, parce qu'elle disait tout. Elle avait plus de filtre, effectivement. Mais d'écouter sa voix, ouais. Y a ses inflexions de voix, et incroyable. Et puis elle était belle quand elle était jeune. Moi, je la trouve, c'était une bombe.
Mais même dans le Père Noël.
Détail, mais...
Non, mais dans le Père Noël. Et vous vous souvenez quand elle est arrivée au César avec ce costume où elle a pris tout le monde à partir. Enfin, elle a fait rire tout le monde.
Mais c'est triste parce que elle disparaît. C'est la première du Splendide qui disparaît. Mmh. Et ça nous fait penser à notre âge qui avance
un petit peu. Tiens, on a un message pour vous. En général, c'est une question, mais pas là. Michèle Bernier était à votre place la semaine dernière. Voilà ce qu'elle a tenu à vous dire.
Bonjour Pierre, c'est Michèle Bernier. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, longtemps que je t'ai pas croisé. Voilà, je t'aperçois par les médias interposés et il y a des trucs, ça me fait de la peine. Et puis en même temps, je sais que t'es fort et courageux et j'ai envie de lire ton livre. Et voilà, en fait, tu sais quoi, je crois que on a envie de te faire des câlins. Voilà, c'est ça le truc. Je t'embrasse.
Alors un câlin, vous en avez eu beaucoup des messages.
J'en ai beaucoup, il va falloir que j'apprenne à les accepter, ces câlins, parce que j'ai un problème quand on m'aime de trop près, j'ai peur du lien, je crois que c'est lié à la mort de mon père, parce que j'ai peur que si je me lie à quelqu'un, on me l'enlève, j'ai peur qu'il meure, donc je me dis autant ne pas se lier, donc j'aime bien savoir qu'on m'aime, mais de loin.
Mais de loin, et pas qu'on vous le dise trop.
Voilà, des fois, s'il y a un message... sur mon répondeur qui est trop gentil, trop affectueux, des fois je ne l'écoute pas jusqu'au bout tellement ça m'embarrasse. Mais il faut que je travaille là-dessus, hein, parce qu'il faut que je puisse laisser les gens me faire des câlins, dont Michèle Bernier.
Faut pouvoir accepter qu'on vous dise qu'on vous aime.
Oui, faut que je suis... J'aime bien prendre les gens dans mes bras, mais j'ai du mal à me laisser prendre dans des bras.
Ouais. On va marquer une pause, mais avant cela, peut-être quand même, allez, une petite partie de Scrabble, vite fait.
Allez,
Liliane, on est là. Kawax. Tu peux nous rappeler la définition de Kawax, Liliane? Ah oui, non, d'accord, il y a de très belles lettres dans ton mot. Mais la deuxième condition au Scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est chiant comme tout, je te l'accorde, mais ça rend la partie un tout petit peu plus intéressante. Kawax, ça n'existe pas, Liliane. Oui, bah, tu l'as entendu, bah, écoute, je sais pas. Peut-être pendant nos vacances à Dakar. Ça veut peut-être dire quelle heure est-il en sénégalais, mais en tout cas, en français, ça veut rien dire du tout. Bon, alors, fais voir tes lettres. Je triche pas, je l'aide. Votre pauvre mère, vous croyez que c'est drôle pour elle? Elle joue au Scrabble et finalement, elle se rend compte qu'elle parle beaucoup mieux sénégalais que français.
Ça, c'est un inoubliable, hein, évidemment. Le Scrabble, c'est
mon aigle noir à moi.
Ouais, c'est votre aigle noir. Bah, et on n'allait pas se priver quand même. Allez, on marque une courte pause. Dans un instant, le professeur Didier Geil est avec nous. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Irracé.
Palmade est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Mes grands-mères sont magnifiques sur les photos en noir et blanc, autour desquelles il y a plein d'objets inutiles, fascinants. Mon grand-père pense que les joueurs de basket sont trop grands, qu'en cas d'égalité au foot, ça devrait jouer au corner gagnant. Quand mon grand-père a passé le permis, les feux rouges n'existaient pas, et les clignotants, c'était ses bras. Mes grands-parents croient en l'évangile, leurs enfants ont décidé de laisser Jésus tranquille. Mon grand-père utilise le mot pédé pour dire pédophile. Il s'endort entre les plats comme s'il était sous l'exomile. Mon grand-père a plus.
Orelsan, mes grands-parents dans votre playlist, Pierre Palmade. J'ai envie de dire, c'est presque étonnant. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette chanson particulièrement pour les textes, évidemment, Orelsan?
J'adore ces textes. Ouais. J'adore. L'homme, c'est mon genre de mec.
Ah ouais.
Ah oui, je pourrais.
Bon, on va lui dire.
Je pourrais craquer pour Orelsan. Et voilà, les gens qui savent bien écrire et qui sont eux. Alors lui aussi, pour le coup, il est dans la transparence avec sa pensée et ses opinions.
Ouais.
Bah tout simplement, voilà, les gens cachent.
Voilà.
Ça plaît, ça attire, ça émeut.
Bien sûr, ça émeut. Alors Pierre Palmade, on va accueillir maintenant votre invité, le professeur Didier Gel. Simplement, juste un mot, pourquoi vous souhaitiez sa présence?
Je suis quelqu'un qui vient des années 80-90, où le sida était mortel, était une maladie mortelle, qui était en plus stigmatisée comme une maladie pour homosexuels dans les années 80 et 90. Donc j'ai eu très très peur d'en mourir, j'ai eu très très peur de l'avoir.
Vous êtes passé entre les gouttes?
Je suis passé entre les gouttes, entre la chance et la prudence, mais surtout la chance. Et puis j'ai appris qu'un médicament qui s'appelait la PrEP, et qui avait des chances de pouvoir se protéger du sida avec cette PrEP.
Alors on va en parler avec le docteur Didier Gel, qui est donc spécialiste du HIV et de la PrEP à l'hôpital européen Georges Pompidou. Tout de suite, alors tout d'abord bonjour. On va citer votre site parce que c'est important, vih.org. C'est un moyen aujourd'hui pour vous de communiquer et de toucher directement et de faire passer des messages.
Oui, c'est d'informer surtout tous les gens qui se posent des questions sur le VIH.
Ouais.
Voilà, ils ont les réponses simples, adaptées, avec une actualité scientifique quand même très sérieuse. C'est un site sérieux.
Ouais.
C'est pas un site de rencontre.
Oui, bien sûr. Ouais.
Mais ceux qui vont sur le site de rencontre vont aussi souvent s'ouvrir VIH.org pour se tenir informé des dernières avancées de la lutte contre le VIH. Ouais.
Parce que le sida, c'est vrai qu'on vous parliez des années 80-90, Pierre. Aujourd'hui, on a l'impression quasiment que c'est plus un problème que non pas que ça a disparu, mais on se dit que...
Je suis halluciné sur l'omerta qu'on fait sur le sida et la prévention qui a disparu et l'information sur cette PrEP qu'on connaît peu.
Alors, justement, ça c'est important. Parlez-nous de ce dont parle Pierre, c'est-à-dire la PrEP. Vous dites, j'ai vu, c'est une révolution.
Oui. Oui, c'est une révolution. La révolution, c'est que les traitements,
qui jusqu'à un moment,
étaient pour soigner les malades, sont entrés dans la prévention, dans l'arsenal qu'on a de la prévention. La première application, je dirais, c'est dans la transmission de la mère à l'enfant.
Ouais.
Pendant la grossesse, le VIH se transmettait aux enfants. Aujourd'hui, maintenant que les femmes sont toutes sous traitement, les femmes enceintes sont sous traitement dès le début de la grossesse, il n'y a plus de transmission mère-enfant, il n'y a plus de naissance d'enfants séropositifs en France depuis plus de 3 ans.
Et ça, il faut le marteler.
Et c'est
le
une
dire.
Grande victoire.
Ouais.
Moi, je me souviens quand j'apprenais à des jeunes femmes qu'elles étaient porteuses du virus, le premier 14 ans, c'est je pourrais jamais avoir d'enfant.
Mais
aujourd'hui, si, et il n'y a plus de risque, si le traitement est bien pris, de transmettre l'enfant. Ça, c'était la première chose. Deuxième découverte qui date d'il y a cette dizaine d'années, c'est Hirscher en Suisse qui est le premier à travailler là-dessus. Quelqu'un qui est sous traitement ne transmet plus le virus. Quelqu'un qui est sous traitement, bien sûr, garde le virus, le traitement ne guérit pas, mais il bloque la multiplication du virus, et il n'y a plus de virus dans le sang. On dit souvent la charge virale est indétectable. Il n'y en a plus, on n'en trouve plus dans
ça
le sang.
Ça veut dire aujourd'hui, quelqu'un qui prend ses médicaments qui ne risque plus de transmettre le virus.
Exactement.
Traduisez, un séropositif qui est traité n'est plus contaminant et n'est plus... N'ayez plus peur de quelqu'un qui est séropositif et traité.
Ouais.
Moi, j'ai eu du mal à l'intégrer. Mais le médecin...
Mais ce message, vous avez eu du mal à...
Il est révolutionnaire.
Mais ce message,
n'ayez
il n'est pas
plus
encore
peur.
Passé.
Ouais. C'est une ancienne peur, mais un séropositif traité, eh bien, faites l'amour avec lui, sans souci, si évidemment il vous plaît.
Oui, 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 bien sûr.
C'est-à-dire que si on est traité... À partir du moment où on est indétectable, c'est-à-dire à peu près au bout de six mois, un an, on est indétectable totalement, on attend encore 6 mois, et il n'y a plus à ce moment-là de virus dans les sécrétions génitales, donc plus de risque de transmettre à son partenaire sexuel. Mmh. C'est essentiel.
Bien hein, sûr.
Bah, et ça donne une confiance pour mes patients, séropositifs que je suis depuis des années, retrouver une confiance, un plaisir même dans la sexualité, parce qu'ils n'ont plus cette hantise de risquer de le transmettre à quelqu'un, vous voyez. Alors ça, c'était le deuxième point. Et puis, il y a eu ensuite le traitement post-exposition, c'est-à-dire que si on a un comportement à risque, si on connaît pas le statut de son partenaire, le préservatif craque ou qu'on l'a pas utilisé, eh bien, on a 48 heures pour aller dans toutes les urgences des hôpitaux de France pour avoir un traitement post-exposition. En fait, c'est une trithérapie, c'est comme un traitement VIH pendant un mois, qui réduit de plus de 90% les risques de contamination. Vous voyez, ça, on fait ça à l'hôpital, à Pompidou, aux urgences, très bien.
Ça m'est arrivé une fois. Voilà. Je l'ai fait pendant un mois, c'était très fatigant, mais j'ai eu peur d'être exposé. Et pendant un mois, je me suis fait traiter. C'était très dur, fatigant, mais voilà.
Comment ça se passe d'ailleurs, enfin, quelle angoisse vous saisit quand vous pensez que vous avez été, vous craignez que vous avez été exposé ces jours-là avant d'avoir un résultat, ils sont interminables.
Oui, parce que la vie change pour les séropositifs, même si maintenant, biologiquement, ils ne risquent plus de contaminer les autres. C'est très encombrant de l'annoncer socialement, de l'annoncer à son partenaire. Il y a une vieille image sur la séropositivité.
Alors que tout a changé, comme vient de nous le dire...
Et il y a la partie maintenant... préventif de la PrEP.
Alors ça, c'est nouveau.
Voilà, ce qui est nouveau, c'est qu'on peut, on utilise maintenant un médicament qu'on connaît bien parce qu'on le donne pour le VIH, pour traiter le VIH, mais c'est pas une trithérapie, c'est juste une pilule avec deux médicaments, c'est une bithérapie, qui permet de prévenir l'infection. Ouais. Quand on a un comportement à risque, on n'est pas porteur du virus. Donc ça s'adresse aux gens
qui n'ont pas le virus.
Qui n'ont pas le virus, qui ont des comportements à risque et qui sont dans des situations à haut risque. Ouais. Ah, ben ça coûte cher quand même et on ne peut pas le donner à tout le monde. Donc c'est uniquement pour les gens qui ont haut risque. En gros, en France, c'est les homosexuels et les personnes originaires d'Afrique subsaharienne qui sont nos cibles principales. Ouais. Puisque c'est là qu'il y a plus de 80% des nouveaux cas de VIH. Hein, faut pas... et donc ce traitement se prend soit en continu, soit à la demande, et évite, pas tout à fait à 100%, mais presque, la transmission du VIH.
Donc ça aussi, c'est une révolution. On n'en parle pas, on en parle très peu.
C'est une révolution incroyable.
Mais pourquoi on n'en parle pas?
Eh bien écoutez, je pense qu'on devrait en parler plus. Ouais. On devrait en parler plus, et que tous les gens qui ont des comportements à haut risque, eh bien, prennent la PrEP.
Et aujourd'hui, on peut dire que la PrEP protège du sida à combien de pourcents?
Dans les essais, c'est entre 4, c'est plus de 90%.
Rendez-vous compte, on peut se prévenir du sida à plus de 90% avec cette.
À condition qu'on le prenne.
Évidemment.
Hein, c'est comme la capote. Ouais. Hein, c'est vraiment la capote, mais si on la met.
À condition qu'on le prenne et qu'on accepte de vous le prescrire?
Et qu'on accepte, bien sûr, on le prescrit à l'hôpital.
Et on peut aller vous voir.
Si vous voulez, ce qui est aussi très important, c'est que on sait qu'il y a une flambée aussi des IST, des infections sexuellement transmissibles. Et avec ce dispositif de PrEP, on tous les 3 mois, on fait un bilan MST complet et on traite tout le monde. Donc l'objectif, c'est d'arriver à l'éradication du VIH et aussi une diminution des MST.
Merci.
Vous vous rendez compte de l'évolution?
C'est incroyable.
Il faut que ça sache.
Ben voilà. Et vous avez bien fait de mettre le projecteur là-dessus. Merci beaucoup, professeur Didier Gel. Je rappelle le site vih.org. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Courte pause parce qu'on est très en retard, Pierre. Et puis
mais j'ai plein de choses à dire.
Ben oui, je sais bien. Une petite surprise vous attend. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Pierre Palmade et Vincent Parisot. Pierre Palmade est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Monsieur Dupont marche seul dans la nuit. Personne ne l'attend ni ne veut de lui. Ça fait longtemps qu'il n'a pas bien dormi. Son pauvre costume est tout racorni.
Évidemment. notamment Véronique Sanson dans vos choix musicaux, parce que bah, on a parlé de Michel Larocque, votre épouse sur scène, mais Véronique Sanson, vous l'avez épousée.
Oui, et on a divorcé, mais ça reste la femme de ma vie. Je pense pas qu'il y en aura d'autres. Mmh. Et une complicité infinie, au-delà de l'amitié.
Ouais. Alors, méfiez-vous quand vous dites ça, parce que ça peut être aussi pris autrement. Peut-être que j'ai une autre femme de votre vie en ligne. On va voir. Bonjour, invité surprise.
Bonjour.
Bon. Alors, est-ce que vous l'avez reconnue?
C'est pas Muriel?
Et pourquoi pas?
Déjà, je reconnais un petit peu.
Vous parlez bien sûr beaucoup de Muriel, de Robin dans votre clip.
Ah, vous dites, une autre femme de ma vie, mais ouais. Évidemment, vous avez
je
compris.
Je ne dois rien à personne, sauf à Muriel. Voilà ce que vous écrivez.
Ben oui, c'est vrai que ma vie, c'est comme... ça a changé ma trajectoire. On s'est percuté et ma vie n'aurait pas été aussi riche si j'avais pas rencontré Muriel.
Il est l'homme de votre vie, Muriel?
Oh oui, vraiment. C'est en tout cas certainement le fils que j'aurais rêvé d'avoir ou le petit frère. Donc, parce que moi, comme je suis très maternelle, ça me semblait pas mal cette rencontre. J'ai pu mettre en place tout ça, un peu trop parfois d'ailleurs, jusqu'à certainement l'étouffer. Puis peut-être. Et puis en plus, je n'étais pas tout à fait pas très en place. Mais j'avais un travail à faire sur moi. Et ce qui me bouleverse beaucoup chez Pierre, c'est que ce travail qui est difficile, que je connais bien, à faire sur soi, à aller gratter, à chercher, c'est pas que facile, ça demande beaucoup de courage. Le fait que Pierre a fait ça fait que voilà, notre histoire d'amitié peut perdure et on parle des mêmes choses, donc on est encore ensemble maintenant, malgré que nous ayons beaucoup changé et fait en tout cas cette introspection, ce qu'on retrouve dans son livre. Et moi, je veux vraiment dire merci à Pierre, parce que je trouve que la vérité est quelque chose qui devient de plus en plus rare, et dans les fake news, les fake visages, les fake sentiments, les fake news, j'ai l'impression que avant ce mot, c'était vraiment des comment on a pu vivre, en tout cas dans ce fake monde, je trouve que la vérité prend vraiment un sens, un poids. Là, il est question de courage et je trouve ça formidable. Donc, je remercie Pierre pour ce livre qui donne à certains le goût de la vérité, et espérons que ce goût-là plaira à certains et qu'il y aura une continuation aussi dans la vérité. Voilà.
C'est formidable, magnifique ce que vous venez de dire.
Merci, ma grande sœur.
Voilà. Merci, mon petit frère chéri que j'aime.
Eh ben, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup de ce coup de fil, Muriel Robin. Ce livre de la vérité, ce livre de la transparence, Pierre Palmade.
La mienne en tout
bien
cas.
Bien sûr.
Ce que je crois l'être.
Dites à mon père que je suis célèbre chez Harper Collins. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous, Pierre Palmade.
Merci. Et c'est diffusé quand?
Eh ben, en tout cas, c'est à revoir évidemment en replay sur rtl.fr. Et dans un instant, Jean-Alphonse Richard, confidentiel avec aujourd'hui Jane Fonda. À la semaine prochaine.
RTL, le journal inattendu.